On va reprendre cette fois. Pierre m'a promis de m'arrêter à temps. À Chrétien Mission, on m'a acheté une horloge. Une table, mettre devant moi. Alors, maintenant ça se complique. Les déplacements de perspective qui sont nécessairement occasionnés par le modèle inductif ont été jusqu'ici bénins dans les exemples que nous avons choisis. Qui est contre la réconciliation chrétienne? Qui est contre l'obligation des chrétiens de payer les impôts? C'est bénin, il n'y a pas de problème. Mais est-il concevable qu'à force d'accumuler ces déplacements finissent par déformer sérieusement ce que l'Évangile dit sur Jésus et sur son enseignement? Ça, c'est le danger. Comme je disais tout à l'heure, la lecture inductive est toujours, même si c'est bénin, c'est toujours quelque part déformatrice, parce qu'on détourne un texte de son sens d'origine. Et là, il faut faire attention. Exemple, le légalisme. Jésus devient le défenseur pointilleux et impitoyable du rituellement correct. Il mandate ses apôtres pour cette tâche. Écoutez, je suis légaliste, disons. Et je me dis disciple de Jésus. Donc je suis légaliste et je suis Jésus. Ben, il faut que Jésus soit légaliste. Donc on fait un Jésus légaliste et on lit les textes qui semblent justifier cette idée. Ce Jésus-là, je vous ai dit, le problème dans l'Église, à mon avis, on se trompe de Jésus. On suit le mauvais Jésus. Un autre exemple. Jésus devient le Rambo israélite. Israélien. Il devient le chef nationaliste d'une théocratie juive fondée sur la force militaire et la guerre. Une chose qu'on peut dire, Jésus a répudié pour jamais ce Messie-là. Chaque page de l'Évangile, il est en train de lutter contre cette idée. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Le pentecôtisme. Jésus devient le fournisseur de pouvoirs miraculeux, mais pas n'importe lesquels, les pouvoirs qui nous permettent de contrôler notre santé, notre prospérité, etc. Ça n'a jamais été la mission de Jésus. C'est une méconnaissance foncière du sens des miracles, qui sont des signes. Ah, la nouvelle essence. Mais ça vient par une expérience mystique, faute d'autrement, c'est les partisans de la nouvelle naissance ont du mal à définir ce que c'est. Mais c'est une idée extraite par une lecture inductive de Jean 3, et la conversation entre Jésus et Nicodème. Bon, il y a d'autres Jésus qu'on suit. Le Jésus copain, le Jésus génie magique, comme la Jésus plastique qu'on met dans la voiture, comme un truc magique pour nous protéger. Le Jésus dont on se sert pour accomplir notre volonté. Ça, c'est un mauvais Jésus. Souvent, on suit deux Jésus à la fois, parce que nos frères pentecôtistes et autres, ils connaissent le vrai Jésus. Mais en même temps, ils suivent un mauvais Jésus. D'où la tension dans leur enseignement. Se pourrait-il que des idées foncièrement déformées sur Jésus paraissent plausibles à nos partisans, justement parce que nous avons l'habitude de détacher les textes de leur contexte. C'est une habitude. C'est normal pour nous. Et on n'a plus de garde-fous. Hein? pour nous empêcher de partir n'importe où. Je crois que c'est vrai. Donc ce n'est pas simplement un exercice intellectuel que nous faisons. Vraiment, ça touche le fondement de notre foi. Se pourrait-il que nos modèles typologiques conviennent mieux pour nous introduire dans une lecture plus authentique des évangiles, pour nous faire comprendre notre religion, pas simplement le texte, mais ce que c'est la religion et le sens de notre vie? Moi, je crois. Moi, je crois que c'est une brique essentielle dans la construction de notre maison de foi. Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être faire une troisième séance projection. Ça ne fait rien. J'ai choisi deux textes vraiment difficiles pour illustrer cette lecture. Le premier, le retour de l'esprit impur. Pourquoi il est difficile? Parce qu'il est obscur, négligé. Je disais hier soir, je n'ai jamais entendu un sermon sur ce thème, jamais. Et je suis chrétien depuis plus de 40 ans. On l'évite comme la peste. Deuxième texte est difficile pour la raison opposée. Tout le monde connaît ce texte. Il est cité abondamment. L'année dernière, sans faire exprès, on m'a cité une fois à la télévision. J'ai entendu citer ce texte 4 fois dans l'année. 3 fois dans des conversations privées et 1 fois à la télé. Et c'était toujours dans le sens pour dire que Jésus ne prenait pas l'immoralité sexuelle très au sérieux. Non, mais c'est vrai. Et ce texte, quand on voit les œuvres artistiques, aucune œuvre artistique, à ma connaissance, qui illustre cet incident. Il y en a plein de tableaux qui illustrent cet incident. Donc l'un est obscur et négligé, peu connu, l'autre est très connu. Et les deux sont difficiles. Les deux posent des difficultés pour le lecteur et le commentateur des évangiles. Alors, prenons le premier. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. À son arrivée, il le trouve balayé et mis en ordre. Alors, il va prendre cet esprit plus mauvais que lui, il s'y entre et s'y installe. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ah, voilà, ça c'est le texte. Bizarre, hein? Vraiment, c'est bizarre. Voici des tentatives d'interpréter ce texte par le modèle inductif. C'est-à-dire, on va essayer d'extraire un principe général pour les chrétiens. Je sais, hein? Écoutez, hein? Moi j'ai des dizaines de commentaires sur les évangiles, donc je connais ce que les commentateurs disent. L'interprétation la plus répandue, c'est qu'il s'agit de dénoncer ce que les auteurs appellent la repentance négative. C'est quoi cette année-là? Bon, apparemment, c'est on renonce au mal sans embrasser le bien. Bon. Si c'est le cas, c'est la seule fois qu'on parle comme ça dans toute la Bible. On a l'impression qu'on a inventé ça pour essayer de donner un sens. Une autre tentative, c'est qu'il arrive un nouveau converti chrétien qui ne persévère pas dans la foi. C'est vrai, il n'y a pas de chrétien dans les évangiles. Ah, rien à voir. Troisième, la nécessité pour un démoniaque exorcisé de se laisser remplir par l'Esprit Saint. Encore une fois, on n'en parle jamais comme ça dans tout le reste de la Bible. C'est une tentative de donner un sens à un texte qu'on ne comprend pas. Heureusement, il y a 2 ans, j'ai trouvé un commentateur vraiment vraiment qui m'a aidé beaucoup et qui était vraiment franc et honnête, il a dit, il a détruit ses interprétations. Exégétiquement, il a dit, mais il a montré que ce n'est pas possible. Et puis il a fait, il a dit si. C'est sa compréhension de ce texte. J'ai aucune idée de quoi Jésus parlait.
Il a écrit.
Il a écrit. Je sais que ces autres interprétations sont fausses, mais cela dit, je ne comprends pas ce que Jésus veut dire. Au moins, il était honnête.
Oui.
Là, c'était rafraîchissant. On va essayer de voir par le modèle typologique si on peut y voir un peu plus clair. À quoi ressemble une lecture typologique? Ah, il y a une faute de... Ce texte est une parabole. Une parabole, ce n'est pas une fable avec une morale. Mettez une croix sur cette idée. Une parabole, c'est une comparaison entre le récit que Jésus raconte et une situation historique précise. Jésus ne se sert pas des paraboles comme des petits, comme les fables de la fontaine, pour illustrer une leçon pratique ou morale. Il veut faire comprendre ce qui se passe dans une situation historique précise. D'habitude, la situation d'Israël au 1er siècle, ou l'arrivée du règne, par exemple. Deuxième chose à comprendre, chaque parabole a ce que les biblistes appellent une pointe. Vous avez peut-être remarqué, quand Jésus raconte une parabole, il veut que l'auditeur fasse un jugement sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis il raconte un homme. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le gars qui a invité les personnes au mariage de son fils et qui ne viennent pas? Qu'est-ce que vous feriez? Il veut que les gens passent un jugement, il veut qu'ils fassent un jugement sur la situation, sur le récit qu'ils racontent. Porter un jugement. Et on appelle ça la pointe. Et la pointe, c'est comme ça qu'on lit une parabole. On prend le jugement qu'on a prononcé sur le récit et on applique ce même jugement à la situation historique que Jésus vise. Vous voyez, c'est comme ça qu'on lit une parabole. Bon, c'était rapide. D'habitude, il me faut une semaine pour en faire ça. Au sémiste. Alors, Jésus va nous faciliter la tâche. Il va nous dire quelle est la pointe. Quel est le jugement que nous devons prononcer sur ce récit. Il dit, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que être possédé de 8 démons, est-ce que c'est pire que d'être possédé d'un démon? Oui ou non?
Ah oui.
Ah oui, c'est pire. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est définitif. Hein? Là, il a réussi à se débarrasser d'un démon, mais 8, ce n'est pas possible. Là, le gars, il est condamné. Ça, c'est la pointe. Sa situation dernière est pire que la première. Voilà le jugement. Maintenant, on va appliquer ça à une situation historique. Laquelle? C'est ça? C'est là qu'il faut réfléchir quand on lit une parabole. Ah, mais Jésus va nous faciliter la tâche. Ce qui est vraiment bizarre que les gens ne comprennent pas cette parabole, Jésus l'explique. Il nous donne et la pointe et la situation réelle. Mais nous, on est en train de chercher une morale, donc on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne voit pas l'explication, même quand Jésus nous la donne précisément. Bon, j'ai triché, j'ai pris la version de Luc, Parce que Luc ne contient pas le verset suivant. Le verset suivant, hein, le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi, en sera-t-il également, c'est une comparaison, de cette génération mauvaise. Quelle situation? La situation de la génération des Juifs du premier siècle. Cette génération. Cette expression a toujours le même sens dans l'Évangile. C'est les contemporains juifs de Jésus. C'est chronologique, premier siècle. C'est ethnique, les Juifs. Et Jésus appelle cette génération, génération mauvaise, adultère, pas dans le sens de péché sexuel, hein, dans le sens d'infidélité religieuse. Pécheresse, incrédule, pervertie. Ça, c'est les paroles de Jésus au sujet de cette génération. On dirait que Jésus a des jugements à porter contre eux. On dirait que son attitude est plutôt négative. Il y a une autre parabole, c'est la parabole du figuier. Vous vous souvenez de ça? Il y a un figuier qui ne donne pas de fruits pendant 3 ans. Le propriétaire dit, bon, on va abattre, ça prend la place pour rien. Et le jardinier dit, mais attendez, on va travailler 1 an, on va mettre de l'engrais, on va donner de l'eau, et s'il n'y a pas de fruits après, on va couper. Mais dans cette parabole, l'arbre, qui est Israël, est déjà condamné avant l'arrivée de Jésus. Dieu allait déjà mettre fin à la théocratie juive avant l'arrivée de Jésus. Jésus veut sauver Israël. C'est ça qu'il veut. Il supplie son peuple. Renoncez à vos ambitions. Suivez plutôt le dessein de Dieu. Sauvez-vous. Ça, c'est le message de Jésus aux Juifs. Ainsi, cette génération a été jugée par Dieu avant l'avènement de Jésus. Même Jean-Baptiste disait à Israël, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Même Jean-Baptiste savait qu'Israël était condamné. La situation d'Israël était déjà désespérée, comparable à la situation d'un homme possédé d'un esprit impur. C'est mauvais. Être possédé, c'est vraiment mauvais. Israël est déjà dans un mauvais état. Mais un sort pire encore attend la nation si elle n'accepte pas le Messie. Si elle continue à rejeter le Messie que Dieu lui envoie. Là, ce sera encore pire. Là, c'est définitif. S'il rejette le Messie, le sauveur définitif, qui va le sauver? Le chiffre 7 évoque la plénitude, la perfection. La possession par cet esprit, c'est définitif, irrémédiable. Il n'y a pas d'espoir. Jésus, est en train de dire au peuple juif, « Je suis votre dernier espoir. » Parce que vous êtes déjà condamné. Votre créancier vous a déjà condamné, vous êtes en train de passer devant le juge, il faut changer maintenant. En route, pendant que vous en avez le temps. Parce qu'une fois arrivé devant le juge, hein, la procédure est inchangeable. De même, le châtiment qui menace Israël sera définitif et irrémédiable. Les Romains mettront fin à Jérusalem, au temple, à la théocratie juive. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Petite remarque sur l'image. C'est l'arc de Titus à Rome. Et ça montre les Romains en train d'apporter les trésors du temple de Jérusalem à Rome. après la destruction du temple et de Jérusalem. Ça, c'est ce qui attend Israël si Israël ne se convertit pas, continue à poursuivre ses rêves théocratiques. C'est bon? Maintenant, le gros morceau. Parfois, je me demande si... Oui, mais c'est trop intéressant pour laisser. C'est l'histoire de la femme adultère. Donc, c'est la fin du chapitre 7. Ils s'en allèrent chacun dans sa maison. Jésus, lui, s'en alla au mont des Oliviers. Et au point du jour, il se présenta de nouveau dans le temple. Et tout le peuple venait vers lui. S'étant assis, il les enseignait. Bon, il y a plus que ça. Jésus se présente ici comme un enseignant officiel de la loi de Moïse. Il va dans le temple, là où les professeurs de théologie faisaient leurs cours, il s'assoit, il prend la position d'un enseignant officiel et commence à enseigner. Et les gens viennent vers lui comme un expert de la loi de Moïse. D'accord ? C'est pas pour rien que Jean nous dit ceci. Jésus se présente comme un enseignant officiel dans le temple. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la placent debout au milieu. Ils lui disent, maître, cette femme vient d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Alors, toi, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. C'est un piège. Encore un piège.
Il accusait d'eux.
L'adultère.
Non, l'accusait, oui. Afin de pouvoir l'accuser, Jésus.
Oui, j'ai pas entendu.
Afin d'accuser Jésus ou la femme?
Afin de pouvoir l'accuser
Jésus.
Jésus, Jésus. Mais de quoi à ce moment-là?
Là, on va voir. L'accusé, bon, pour porter atteinte à la loi. Jésus, se courbant, écrivait avec son doigt sur le sol. Bon, tout le monde veut savoir ce qu'il a écrit, ça n'a aucune importance. Mais comme il demeurait là à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et se courbant de nouveau, il écrivit sur le sol. Mais eux, entendant cela, se retiraient un à un, en commençant par les plus âgés, et il fut laissé seul, ainsi que la femme qui se tenait là au milieu. Se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors, cet incident a toujours posé problème. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il semble conforter une attitude laxiste envers les adultères dans l'Église. Ouais, ben, on ne peut pas mettre ça. En fait, dans beaucoup de manuscrits, ce texte a disparu. Et il y a un espace, il y a un vide où apparemment les copistes ont dit ben, on ne peut pas mettre ça. Parce que les gens, ils vont voir que bon, l'adultère dans l'Église, c'est pas grave. Mais c'est un problème. C'est pour ça que les chrétiens plutôt conservateurs n'utilisent pas trop ce texte. Par contre, les progressistes le citent tout le temps. Alors, pour Jésus, bon, maintenant, on va entrer dans un nouveau monde. Pour Jean et pour Jésus, cet incident est un signe, un type. Préfiguration. Un signe est un genre de parabole vivante, orchestrée exprès par Jésus. Je dis aux sémistes, quand vous lisez les évangiles, il faut imaginer Jésus avec un béret français, avec un porte-voix, comme on avait autrefois, des bottes comme ça, et comme un réalisateur. Vous savez, dans les vieux films, action!
Silence on tourne.
Voilà. Parce que Jésus orchestre ces événements. Ce n'est pas nouveau, il le fait tout le temps dans Jean. À Cana, en Jean chapitre 5, l'infirme, il voit une situation, il sait, ben, ça serait une situation merveilleuse pour faire un signe, pour donner un enseignement. Parce que ça, c'est ça son but. C'est pas de éliminer la maladie de la terre. Ça n'a jamais été son but. Et comme c'est le cas de nombreux signes, celui-ci illustre la situation spirituelle d'Israël à l'époque de Jésus. Ça, c'est la grande préoccupation de Jésus pendant son ministère public. Sauver cette génération condamnée à disparaître. La sauver d'elle-même. Le vrai sujet de ce récit, ce n'est pas l'immoralité sexuelle. On ne va pas apprendre grand-chose au sujet de l'adultère dans ce texte. Ce n'est pas le sujet. Bon, c'est le prétexte que les scribes et pharisiens veulent utiliser contre Jésus. Mais la réponse de Jésus à ce qui va se passer, ce n'est pas au sujet de l'adultère. On peut citer ça sans problème. Parce que ça ne nous apprend rien sur l'adultère. Le vrai sujet, c'est l'infidélité d'Israël, l'infidélité spirituelle d'Israël au premier siècle. La femme adultère est la personnification d'Israël. Ce n'est pas nouveau chez Jean. Nicodème, c'est Nicodème, membre du Sanhédrin, pharisien, professeur en théologie, etc. Mais c'est aussi le représentant, la personnification de l'élite religieuse d'Israël. La preuve, c'est que Jésus, il parle à Nicodème, tu, toi, et à un moment donné, il commence à dire vous, pluriel. Nicodème représente les chefs religieux du peuple. La femme samaritaine, c'est la même chose. Pas simplement une femme que Jésus rencontre au puits de Jacob, c'est la personnification de la Samarie. Il y avait, elle a eu 5 maris. Le gars avec lequel elle vit n'est pas son mari. Hein, c'est les 5 religions païennes que les Samaritains avaient suivies. Maintenant, il suit une forme tronquée du judaïsme. Dieu n'est pas vraiment son mari. Et il cherche un 7e homme, c'est Jésus. Mais la femme samaritaine représente aussi la Samarie, la religion, hein, sa situation religieuse. Bon, je pourrais continuer. L'infirme de Jean chapitre 5, c'est un infirme que Jésus a rencontré, mais c'est aussi Israël, qui est malade 38 ans. Ça veut dire quoi 38 ans? C'est le nombre d'années qu'Israël a passé dans le désert. Ce n'est pas 40, on a arrondi pour faire 40. Vous lisez le texte de Deutéronome, c'est 38 ans. Cet homme, c'est Israël. Donc, ce n'est pas nouveau, les personnifications. Les gens qui représentent un groupe plus large. Cette femme, à mon avis, c'est Israël. L'épouse infidèle, condamnée à juste titre à la mort. Israël a été pris en flagrant délit d'infidélité envers Dieu. Son sort est réglé. Son sort est sa culpabilité finalement. Génération mauvaise et adultère, dit Jésus. Cette génération adultère et pécheresse, en Marc 8. Pas adultère dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui commettent des péchés sexuels, mais dans le sens, vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Vous n'êtes pas l'épouse fidèle. Comme dans l'Ancien Testament, les prophètes traitent Israël de prostituées. Alors, tout comme la culpabilité de cette femme est avérée, flagrant délit, on ne dépend pas de témoignages. On a attrapé. Sa condamnation est légitime. Ainsi, l'adultère spirituel d'Israël est flagrant. Sa perdition est certaine, et de la femme, et d'Israël. Mais maintenant, on est à deux niveaux simultanés. C'est ça, la typologie. Il y a un niveau littéral, historique, et un niveau symbolique. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté de l'évangile de Jean. Jean-Baptiste dit « race », mauvaise traduction, c'est le mot « génération ». Génération de vipères, qui vous donnera le moyen d'échapper à la colère qui vient? Pas le jugement dernier, là. C'est la fin d'Israël. En vérité, je vous le déclare, tout cela, tout ce jugement, va retomber sur cette génération. Chronologie. Si on jette la chronologie, bon, on ne comprend pas ce que Jésus veut dire ici. Cette génération de juifs, l'Israël du premier siècle est condamné et le jugement va tomber sur lui. S'il ne se convertit pas. Alors, les pharisiens et scribes qui amènent cette fin, ils ont l'habitude de maîtriser le peuple. Ils ont l'habitude de porter des jugements vraiment sévères contre le peuple. Hein. Jésus dit, cherchez la petite bête, vous vous souvenez de ça? Vous cherchez la poussière dans l'œil de votre prochain, alors que vous avez une poutre. Ça, c'est les pharisiens. Ils ont complètement déformé la religion juive, et maintenant, ils passent tout leur temps à aller chercher la petite bête sur les autres juifs. Ah, vous ne pouvez pas laver les mains avant de... etc. Comme ils font avec Jésus. Et ils portent ce jugement méprisant envers les autres juifs. Les pharisiens, le mot veut dire les séparer. Ah, nous sommes meilleurs que les autres juifs. Nous sommes les séparés. Nous sommes l'élite. En Jean 7, juste avant cet incident, les pharisiens, le Sanhédrin, cette foule, parce qu'il dit, est-ce qu'il n'y a aucun pharisien qui a suivi Jésus? Mais non, vous verrez, les pharisiens sont trop intelligents pour suivre ce charlatan. C'est cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Jésus arrive à duper ces gens, ignorants et maudits, mais pas nous, hein. Nous, on est trop intelligents, on connaît trop la loi. Mais eux aussi sont condamnés par la loi. Les pharisiens et les scribes sont condamnés par la loi. Dans quel sens? Ben, ils sont englobés dans cette génération adultère vouée au jugement. Mais c'est pire. C'est eux, les auteurs de cette religion déformée, qui était la source de l'infidélité d'Israël. Et Jésus, il passe beaucoup de temps à parler de ça. Beaucoup de temps. Vous serez jugés plus sévèrement, parce que c'est vous qui avez déformé cette religion. Vous, les rabbins, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, vous imposez cette religion déformée à vos frères. C'est ça que Jésus dit. Ce fardeau impossible à porter. Jésus dit, venez à moi, mon fardeau est bon. Ne pensez pas, Jésus dit aux pharisiens, que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse. En qui vous mettez, vous, votre espoir? C'est-à-dire la loi de Moïse. Ah, nous sommes en règle avec Dieu parce que nous gardons la loi, nous savons, hein. Nous sommes des experts. Mais Jésus dit, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. C'est un effet de moi qu'il a écrit. C'est-à-dire, l'Ancien Testament a été écrit pour préparer la venue du Messie. Vous ne m'acceptez pas, ça veut dire que vous ne gardez pas la loi. Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la loi? Pourtant, aucun de vous ne la met en pratique, la loi. Pourquoi cherchez-vous à le tuer? Vous cherchez à tuer le Messie? La loi a été écrite pour préparer ma venue. Et vous voulez me tuer. Ça veut dire, vous ne suivez pas la loi. Donc, la question que Jean voit se poser dans ce texte, c'est pas simplement le péché d'adultère, c'est pas le sort de cette femme, c'est pas le vrai sujet. Jésus, en tant qu'enseignant de la loi, exerçant son ministère dans le temple, officiellement, est-ce qu'il va condamner cette génération adultère et appliquer la sentence? C'est ça la question que Jean voit, l'apôtre Jean qui écrit. Bon, il y a la situation de la femme, historique, mais Jean voit, ça c'est une figure de ce qui se passe en Israël avec Jésus. Est-ce que Jésus, le Messie, va condamner maintenant, tout de suite, la femme infidèle d'Israël? Jean-Baptiste a dit, est-ce que le jugement est prêt? Ben oui. Déjà même, la hache est prête à attaquer à la racine des arbres. Tout ce qu'il faut, c'est de prendre la hache et commencer à couper. Israël est coupable, le verdict a déjà été prononcé, il ne reste que le bourreau. Tout est prêt. Est-ce que Jésus va faire ça? Jésus ne répond pas à la question. Oui.
Dans ce passage, du coup, est-ce que les pharisiens ont cette même lecture que Jean fait à ce moment-là?
Est-ce qu'ils comprennent l'événement tel que
Jean le décrit? Non. Même les apôtres, même Jean ne comprenait pas ce du tout. Les apôtres ne comprennent pas les signes. C'est après la résurrection qu'ils vont comprendre.
Il n'y a que Jésus dans la situation qui comprend.
Il n'y a que Jésus qui comprend ça. Oui.
Je suis d'accord du coup avec la lecture typologique. Est-ce que le risque, c'est pas de rater peut-être ce que Jésus... Ce qui nous semble, hein, qu'il répond à la question, puisqu'il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc il dit qu'elle est condamnable, en fait.
Finalement. Qui?
Jésus dit qu'elle est condamnable, finalement.
Oui, oui.
Il répond indirectement à leur question en disant jetez-lui la pierre, en tout cas celui qui n'a jamais commis de péché.
Oui, on va voir ça. C'est une bonne question.
Oui, mais on va pas le voir maintenant.
Max. 5 minutes.
5 minutes, complètement. On finira pas. Pourquoi est-ce que Jésus commence à écrire? Parce que c'est un refus de répondre. Jésus refuse de répondre à la question. Et sur Israël, et sur la femme. Il commence à écrire. Ce qu'il a écrit, on ne sait rien. On ne sait rien. C'est pas important. C'est un genre de refus. Pour le moment. Ce refus ne va pas durer. Jésus a dit, la hache tombera avant la fin de cette génération. Mais maintenant, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Pour le moment, la mission que le Père a confiée à Jésus consiste à offrir à Israël un moyen d'échapper à ce jugement. Un jugement que Jésus lui-même rendra le moment venu. Mais ce n'est pas encore le moment. Jean chapitre 8. Maintenant, c'est le chapitre le plus dur des évangiles. Les Juifs arrivent. Les Juifs qui avaient commencé à croire que Jésus était le Messie. Ils commencent à juger Jésus. Ah, mais tu dis ça de toi-même, tu inventes au fur et à mesure, etc. Et Jésus dit, bon, si on va parler du jugement, d'accord. Que de choses j'aurais à déclarer sur votre compte et à juger. Bon, on va parler du jugement. Moi, je pourrais dire beaucoup de choses sur vous. Mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Mais non. Celui qui m'a envoyé est véridique, et moi, ce que j'ai appris de lui, c'est ce que je proclame au monde. Mon but, ce n'est pas de vous juger maintenant. Je suis là pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Essayez de vous sauver. Donc je ne vais pas parler du jugement. Je vais vous offrir le salut. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, le non-juif, incrédule, pour juger le monde juif incrédule. Pas pour l'instant, mais pour que ce monde soit sauvé par lui. Jésus est venu sauver cette génération, non pas la juger. Il la jugera un jour. Jésus dit, avant la fin de cette génération. Mais ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas la mission que le Père lui a confiée maintenant. Ce n'est pas le moment de juger. Et donc Jésus s'abaisse. Il refuse de répondre. Mais le problème, les pharisiens et scribes, il ne veut pas lâcher la proie. Donc il continue. Et là, leur proie, c'est Jésus, c'est pas la femme. Ils s'en fichent royalement de la femme. Vraiment, ils s'en fichent royalement. L'adultère de la femme, c'est rien. Ils ne veulent pas la mort de la femme, ils veulent la mort de Jésus. C'est ça le vrai enjeu. Alors Jésus dit, ça c'est la bombe que Jésus lâche, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Mais vous croyez, vous parlez d'une bombe? Il s'était attendu à ce que Jésus se prononce contre la peine de mort. C'est ça? D'ailleurs, les Juifs ne lapidaient pas à cette époque. Cette loi n'était pas vraiment appliquée. Mais ils veulent que Jésus se prononce contre la loi de Moïse. Ah ah, c'est l'hérétique. On va le dénoncer et on va le lapider. Alors Jésus dit le contraire. Il dit, allez-y, tu es là. Oh, mais il ne s'attendait pas à ça. Hein. Jésus dit, prenez des pierres et lapidez cette femme. Là, ils sont embêtés. Hein. Ils sont vraiment embêtés. Et pourquoi n'accepte-t-il pas la proposition de Jésus pour lapider cette femme? Rien dans la loi n'exigeait que le bourreau soit sans péché. Ah, c'est Jésus qui a inventé ça. Ils auraient pu dire, ah, d'accord, Jésus dit, le rabbin assis, il a dit, c'est bon, on va lapider cette femme. Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils ne cherchent pas la mort de cette femme. Ils cherchent la mort de Jésus. Jésus vient de déjouer leur piège. Qu'est-ce que Jésus a dit contre la loi?
Rien.
Qu'est-ce que Jésus a dit pour justifier, pour amoindrir, pour minimaliser le péché d'adultère de cette femme? Rien. Il a dit, allez-y. Alors, quand Jésus dit sans péché, là, c'est le contre-piège. Jésus fait souvent, on vient le piéger et il piège les piégeurs. Il ne s'agit plus de la faute de la femme contre la loi, il s'agit de l'incrédulité des scribes et des pharisiens envers toute la loi. Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la loi? Pourtant, aucun de vous ne la met en pratique. La loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Et ce passage-là, c'est dur. Jésus dit ceci aux Juifs qui l'accusent. Sa voix, c'est la voix de Dieu. Vous ne l'avez jamais écoutée. Vous qui connaissez l'Ancien Testament par cœur, vous n'avez jamais écouté la loi. La voix de Dieu. Ah, c'est dur, hein? Sa face, vous ne l'avez jamais vue. Vous ne connaîtriez pas Dieu le Père s'il s'approchait de vous et vous serrait la main et disait « Bonjour, je suis Dieu ». Vous ne le connaîtriez pas. Et sa parole, vous ne l'avez pas qui demeure en vous. Si j'étais là, je vais commencer à transpirer. Puisque à celui qui l'a envoyé, vous ne croyez pas. Votre hostilité à mon égard prouve que vous n'êtes pas de vrai juif et que vous n'avez pas écouté Dieu dans l'Ancien Testament. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. C'est en effet de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous n'avez pas écouté Dieu dans l'Ancien Testament, bah, comment comptez-vous écouter Dieu maintenant qu'il vous parle à travers moi? Alors, sur le plan symbolique, Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs, les pharisiens et les scribes, que si leur génération adultère devait être châtiée tout de suite, eux, les chefs, seraient les premiers à périr. Vous savez ce qui va se passer à ces pharisiens et scribes?
Ils vont être massacrés par les Romains.
Ils vont être massacrés par les Romains?
Non. Par les insurgés juifs. Les zélotes vont arriver à Jérusalem et vont dire, ces gens-là ne nous ont pas conduits à la guerre contre les Romains. Ils les amènent sur la place publique et ils les égorgent après les avoir torturés. La révolution ment ses propres enfants. Et les Juifs auraient peut-être mieux fait contre les Romains, mais passaient beaucoup de temps à se tuer les uns les autres. Parce qu'il y avait des clans, il y avait plusieurs messieurs en même temps. C'est pas bon à voir. Vous lisez la guerre des Juifs de Flavius Josèphe. Vous comprendrez mieux le Nouveau Testament. Alors Jésus se remet à écrire sur le sol. Il les épargne pour l'instant. Il leur donne le temps de se convertir. Si on va vite dans 2-3 minutes, c'est bon. Est-ce qu'ils se retirent parce qu'ils ont compris le piège ou est-ce qu'ils ont été vraiment touchés? On n'en sait rien. C'est ambigu. La suite, l'avenir nous le dira. Alors Jésus délivre la femme des scribes et des pharisiens qui se servaient d'elle comme appât, s'en fichaient de l'adultère de cette femme. C'était un appât pour piéger Jésus. Et Jésus l'épargne. Mais attention, Jésus ne la pardonne pas. Ce n'est pas une histoire où Jésus pardonne à l'adultère, du tout. Jésus ne prononce aucun mot de pardon, comme il le fait dans d'autres cas. C'est évident, il dit, tes péchés ont été pardonnés, va en paix, ma fille. Il dit rien de la sorte. Il appelle la femme et Israël, hein, on est à deux niveaux, en même temps, à se convertir. Ça, c'est tout son message à Israël. Pendant qu'il est encore temps, il lui laisse un délai pour chercher le pardon. Jusqu'à la fin de cette génération, les Juifs auront l'occasion de se repentir. Il donne le temps à cette femme. Il ne pardonne pas. Il lui donne le temps de chercher la conversion. Et à Israël. La femme adultère représente Israël et pris de Naaman. Qui est l'amant d'Israël? C'est l'empereur juif de leur aide. Hein? Le Rambo israélien. Ça, c'est l'amant d'Israël. Qui doit conquérir les nations, leur imposer la loi de Moïse. Un faux époux. En Jean chapitre 3. Jean-Baptiste, il appelle Jésus l'époux. Moi, je suis l'ami de l'époux. Mais le vrai époux d'Israël, c'est le Messie. Mais Israël est pris. Elle est amoureuse d'un faux Messie. En mots. Adultère. Alors, faux amant ou vrai époux? Lequel choisiront les scribes et les pharisiens? On ne sait pas. Bon, on a une idée. Lequel choisira la femme, c'est-à-dire Israël? La question reste ouverte. L'avenir nous montrera lequel des deux candidats les deux soupirants, soupirants qu'Israël choisira. L'avenir. Mais dans ce signe, la question reste ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins dedans. Là, ça c'est le choix devant Israël maintenant.
Et l'avenir, tu le places où? L'avenir, tu le places
où? L'avenir, c'est cette génération. Et il faut dire que des milliers et des milliers de Juifs vont choisir le Messie. Des milliers. Mais pas l'ordre établi, pas les chefs. Israël, dans son ensemble, rejettera le Messie et poursuivra l'avant pour ce qui amènera la destruction de la nation. Voilà. Merci de m'avoir permis, parce que faire 2-3 minutes après, c'est... plongeons avec foi et zèle dans les paroles vivifiantes de l'Esprit. Transcrit dans l'Évangile, il reste énormément de choses à découvrir. Voilà. Bon, on va reprendre, mais sans les projecteurs.
Merci. Alors, quelques techniques, on va aller manger rapidement à midi. Avant, on va prier ici, ensemble, pour le repas. Et alors, n'oubliez pas, donc ce soir, le souper est à vous.